Je suis né à Narbonne, région Languedoc-Roussillon. Pour moi, c'est vraiment ma région parce que Perpignan, c'est mon père et Narbonne, c'est ma mère. Et d'ailleurs, Perpignan est du masculin et Narbonne du féminin, ça va très bien. Un Perpignan, une Narbonne. Alors, je suis né le 18 mai 1913 à Narbonne, région Languedoc-Roussillon, à 2h, à 14h. Pour moi, le train, c'était pas une chose mécanique, c'était une chose de rêve, au contraire. C'était des espèces de monstres merveilleux qui passaient. Je savais qu'ils emportaient des gens et que ces trains allaient à Paris. Et toute mon enfance, dans le fond, je rêvais de Paris en entendant les sifflets des locomotives.
Et alors, il avait un petit panier pour aller en classe, sur lequel il y avait des cerises brodées. Je l'enviais. Et un jour, je dis à ma mère, j'aimerais bien avoir un petit panier comme ça. Et elle me dit, tu auras un petit panier comme ça si tu vas en classe. Je suis allé en classe et j'ai eu le petit panier. Je suis allé en classe, j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Et alors, la maîtresse d'école, Madame Meinrath, m'a mis dans un coin de la classe et elle m'a dit, écoute. J'ai écouté. Et puis un beau jour, on m'a surpris en train de lire le journal à la maison. On croyait que c'était une affectation. Et pas du tout, je savais lire. J'avais appris comme ça.
Pour moi, c'était très dur. Tout d'un coup, tomber dans ce paradis de soutane, de prières continuelles, de classes auxquelles je ne comprenais rien, d'élèves qui ne valaient pas mes petits copains de classe, qui étaient des brutes, qui se battaient avec de la boue. C'était des petits sauvages.
Oui, elle est passée à côté, mon enfance. Elle a été éclipsée, c'est ça. Elle était éclipsée par des situations de famille, des choses compliquées, que je comprenais trop bien, que je comprends encore très bien. Et il a fallu que, très jeune, je mette cette enfance de côté. Elle ne m'aurait pas servi. Alors je me suis dit, si plus tard j'ai l'occasion d'avoir une enfance, eh bien, je me la paierai.
Je pense que c'est plutôt côté sportif, le désir de vouloir faire face, de faire une bonne face devant les choses.
Je crois que la part la plus sincère de moi, c'est la part musclée dans la joie. C'est pas une joie évaporée. Je suis sportivement joyeux.
C'était un mur pour moi d'apprendre l'écriture de la musique. Mon père m'avait donné des leçons de piano, de solfège, de violon. Et j'étais très mauvais. Ça n'entrait pas. Je voulais composer. Alors mon professeur, Mademoiselle Camille Besse, disait à mon père, « Mais c'est terrible, il veut composer, il faut qu'il apprenne. » Elle avait raison, du reste. D'abord, j'ai été clapman pour synchroniser les films, vous savez.
Ah oui, oui, oui.
Et alors, chaque fois que j'avais terminé ma claquette, je regardais dans la caméra, comme oui. Ça, pour essayer des expressions, pour savoir si j'étais photogénique.
Oui. Et ça a porté ses fruits.
Oh,
ça...
formidable. Deux jours après, le metteur en scène m'a convoqué dans son bureau et m'a dit, j'ai plus besoin de vous. Des premiers films parlants où il y avait des chansons dans tous les films. Et alors à ce moment-là, il m'a été donné de rencontrer au studio des auteurs de chansons, des compositeurs qui étaient à la mode à cette époque-là. Alors je connaissais tout de même tous ces gens-là. J'ai commencé à faire des chansons que je ne signais pas à l'époque. Je les faisais pour des personnes qui les achetaient et qui les signaient. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et j'étais tout étonné de voir que ces chansons marchaient, avaient du succès. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire les signer moi-même?
Que j'étais seulement poète. Et puis après, je me suis aperçu que j'étais un petit peu musicien et que j'étais moins poète que je pensais aussi. C'est pour ça que ce mariage de cette petite poésie et de ce sens de la mélodie a fait que je me suis donné entièrement à la chanson.
Un bar qui s'appelait le College Inn, j'ai rencontré un garçon de mon âge, suisse, qui s'appelait Johnny Hess, et qui jouait du piano. Mais il jouait merveilleusement. Alors je lui ai dit, on pourrait peut-être monter un numéro dans le genre de Pils et Tabé, ça marche bien ça. Il me dit, pourquoi pas, est-ce que tu as déjà chanté? Non, jamais. Et toi, moi non plus. Et on a essayé un numéro, mais il faut vous dire que nous avons beaucoup travaillé. Nous avons travaillé plus d'un an pour nous faire un répertoire. D'avoir le public le plus charmant qui soit, c'est le public dont des camarades de régiment qui ne ménagent pas leurs critiques ou leurs compliments. Ça, c'était très bien. Et tiens, même comme cadeau de mariage, je vais vous prendre une chanson. Et Breton lui donne « Il y a de la joie ».
Je suis allé voir mon éditeur Breton. Je lui ai dit « Quel genre vais-je faire tout seul ?» Il m'a dit « Mais fais le genre Charles Trenet ». Je n'en savais rien, moi.
Finalement, le genre Charles Trenet, ce sont les gens qui me l'ont appris.
Si je vais être la réaction, il faut que je fasse le contraire. Il faut que je prenne un chapeau mou et que je me mette en arrière.
Je pensais que j'avais le visage trop rond et que j'avais l'air d'une lune facilement. Alors en mettant le chapeau comme ça, ça faisait le visage plus long.
Inexpressif, à part quand je ris un peu, ça s'éclaire. Autrement, j'ai un visage assez sinistre dans sa rondeur. Alors pour l'égayer, il faut sourire et faire ça. Alors là, oui. Alors si j'ajoute ça,
J'étais malade si je chantais pas un soir. Il fallait que je chante. Alors on me trouvait parfois n'importe quoi comme contrainte. Autrement, j'étais malade. Il fallait que je chante tous les soirs.
En fait, mon véritable bonheur, c'est de communiquer. De communiquer avec les gens. Voilà. Et je n'ai pas trouvé de meilleur moyen de communiquer avec eux que de chanter. Et finalement, ma vie, elle est dans mes chansons. Et j'ai préféré chanter, qui est dans le fond ma façon de parler.
Je suis comme les oiseaux. Quand il pleut, je dis plus rien. Et dès qu'il fait beau, je chante.
Vous pouvez nous montrer comment vous composez et écrivez.
Je n'en sais rien, comment je compose. Je n'ai aucun mérite à composer parce que je compose comme ça, comme un pommier fait des pommes. Enfin, ça vient tout seul. Je ne pense pas que j'écris les chansons. Je les transcris plutôt. Elles se font toutes seules.
Je ne me suis jamais assis à un bureau en me disant je vais composer une chanson. Tout d'un coup, elle me passe par la tête. Et même un peu, je la laisse mûrir. Quand j'écris une chanson, c'est que je la transcris, elle est faite.
En général, si j'ai une inspiration de chanson, la phrase, le texte vient en même temps que la musique. Voilà, c'est un départ. Tout d'un coup, je fredonne. Que reste-t-il de nos amours? Et voilà.
Et le reste suit.
Oui, parce que bien. Et alors là, je pense que la chanson se fait. Si ça ne part pas, parole et musique, ben, ça ne vient pas.
Mais bien souvent, cela me vient en voiture, en voyage. Quand je voyage en voiture, que j'ai pour 2 ou 3 heures de voiture à faire, je n'ai jamais de radio dans ma voiture. Instantanément, une espèce de radio se déclenche dans ma tête et des musiques arrivent.
La maison, elle est privée de liberté. Et pour moi, c'est une chose très dure parce que je suis habitué à vivre comme un oiseau. Oh, j'étais très touché par l'accueil de ce public qui était là, qui m'attendait depuis si longtemps. C'était très, très émouvant.
C'est bizarre, votre maison. Vous voulez me raconter l'histoire de votre maison?
Je l'ai dessinée lorsque j'étais en Amérique du Sud et alors je ne me rendais pas compte que c'était une maison qui était à la Varenne. Et puis, j'ai eu l'idée de faire le balcon en voyant le pont de Bercy. Vous savez, le pont où passe le métro.
Et toutes ces couleurs, ce jaune, ce rouge, ce vert, vous trouvez ça gai?
Dès qu'il y a un peu de soleil, c'est triste. Mais dès qu'il pleut, c'est très gai.
Alors, il faut les arroser tous les jours, les fleurs artificielles?
Ah oui, parce qu'elles prennent la poussière. Ça les lave. Et puis alors, ça donne aux fleurs naturelles l'envie de les copier. Parce que vous savez que les fleurs artificielles sont tout de même plus belles que les fleurs naturelles.
Et vous trouvez ça joli?
Sans doute le suis-je, parce que d'abord, je suis un enfant.
Non.
Et finalement, les enfants sont quand même plus simples que les grandes personnes.
C'est pas vrai, on ne dit pas je suis un éternel enfant.
Hélas, je crois que je passerai de l'enfance au gâtisme sans avoir été adulte, jamais.
Quels sont les avantages de la maturité?
Je ne sais pas, puisque je suis pas mûr.
Les pirouettes, toujours les pirouettes.
Parce que j'ai horreur de l'intimité. Et quand ma mère vient ici, avec des amis, tout ça... Ils apportent beaucoup d'intimité, c'est-à-dire du désordre, pour dire le mot. On laisse traîner des livres sur des tables, parfois des mouchoirs, parfois un bracelet-montre. Ça m'embête, ça. Je ne sais pas
c'est
pourquoi.
C'est trop féminin?
C'est pas ça, non. C'est trop désordonné. Il n'y a pas d'ordre.
Mais vous êtes tellement fantaisiste, vous ne devez pas avoir envie d'ordre.
Justement. Ça se concilie très bien, l'ordre et la fantaisie.
Mais non. Sans doute ai-je été trop amoureux pour me fixer aussi. J'ai eu des amours, j'en ai encore.
Est-ce que vous êtes triste de ne pas avoir eu d'enfant?
Non. Non, parce que... mes enfants, c'est mes chansons.
Ça, c'est des mots.
Non, c'est pas des mots, c'est vrai. Je les aime comme des enfants.
Mais on ne peut rien leur donner aux chansons, enfin...
Je leur ai donné la vie et elles chantent dans le cœur des autres. C'est aussi les enfants des autres, mes chansons. Et elles ont permis aux autres d'avoir des enfants aussi, parce que beaucoup de gens se sont connus avec mes chansons, se sont mariés, ont eu des enfants.
Tout à l'heure, vous disiez, j'ai été malheureux. Vous avez été malheureux dans quelles circonstances?
D'être un peu méprisé.
Méprisé?
Mmh.
Comment ça?
Il y a des moments où je sens que l'on me méprise, ça me fait de la peine.
Quand en avez-vous eu des manifestations de ce mépris?
Quand je retourne dans mon pays natal, des fois, à Narbonne, je sens que je suis un peu méprisé.
Vous n'êtes pas l'enfant chéri à Narbonne?
Si, mais des fois la jeunesse ricane en me voyant. Je dois être ridicule.
Pourquoi?
Si je le savais, je m'arrangerais pour ne pas l'être. Quand j'ai débuté dans la carrière de la chanson, j'y suis allé en grande sincérité et ça a marché. Et alors ensuite, il s'est trouvé qu'avec le succès, je me suis conditionné à une image qui n'était pas exactement celle que j'aurais voulu donner. Alors maintenant que je suis dans le troisième volet, si tu veux, de mon existence artistique, eh bien, je me paie le luxe, si l'on peut dire, d'être vraiment très sincère. Et finalement, je m'aperçois que je me suis trompé dans la deuxième partie du volet. C'est qu'il n'y a que la sincérité qui marche vraiment.
Pourquoi rester fidèle quand tout change et s'en va sans regret? Quand on est seul, debout sur la passerelle, devant tel ou tel monde qui disparaît? Quand on rencontre tous les bateaux qui sombrent en portant les rêves qu'on espérait? Quand on sait bien que l'on n'est plus qu'une ombre fidèle à d'autres ombres, à jamais.
Il aimait beaucoup sa mère. Et moi aussi, j'aimais beaucoup la mienne. Qui n'aime pas sa mère? Seulement, il paraît que ça fait pas viril d'aimer sa mère. Ça fait un peu petite fille. C'est les hommes soi-disant forts qui disent ça, et après, ils se cachent pour pleurer dans les bras de leur femme après 20 ans de mariage. Moi, chérie, j'ai raté ma vie, etc. J'en connais.
On vous a reproché d'aimer trop votre mère?
Non, mais enfin, il paraît que ça fait un peu ridicule. Maurice me l'avait dit. Il dit, ça fait un peu chochotte, il me disait, d'aimer sa mère. Mais moi, j'ai aimé ma mère. Oui, ça fait un peu fils à maman. Fils à papa, c'est pas très bien vu non plus. Mais enfin, ça fait déjà jeune homme qui sort. Tandis que fils à maman, c'est celui qui reste toujours avec elle. Alors que moi, c'est toujours ma mère qui m'a couru après, qui voulait me surveiller, me donner des conseils. Mais elle était très intelligente et elle avait beaucoup de goût.
Au Canada?
Oui, oui.
Ah bon? Eh bien, bienvenue. Entrez. Très affluent, très net.
T'en fais de chansons de ma vie.
Oui, c'est vrai ça ou c'est un...
Jamais, j'ai actuellement une source d'inspiration extraordinaire. J'ai mis plus de temps à les recopier qu'à les composer dans ma tête.
Une visiteuse assez étrange qui vient à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Alors je la reçois toujours. Entrez, madame. C'est ça.
Oui, et on ne sait pas. Quand tu l'appelles, elle ne vient pas. Elle vient quand elle veut.
Quand elle veut. Et elle vient surtout quand elle sent que j'ai la tête complètement vide, quand je n'arrive plus à penser à quoi que ce soit. Alors tout d'un coup, une chanson arrive.
Vous avez combien de chansons, Charles?
J'en ai composé 2000, j'en ai déchiré 1000, il en reste 600 qui sont à la Société des auteurs.
Combien qui marchent?
200 qui sont dans les tiroirs. Et puis, il en marche bien 200 et 5 ou 6 qui sont connus dans le monde entier.
Important pour vous dans la vie?
Je crois que la chose la plus importante de ma vie, c'est d'essayer de rendre les gens heureux, de leur apporter de la joie.
Je me trouve pas mal. J'ai une certaine admiration pour moi, mais pas trop grande quand même. Ce serait ridicule, mais je me vois tel que je suis. C'est pour ça que je me vois avec mes défauts.
Pour supporter la vie, il faut faire l'apprentissage du bonheur. On devrait donner dans les collèges, dans les écoles, puisqu'on donne des cours de sexualité, alors que c'est une chose que la nature vous donne instinctivement, eh bien, on devrait apprendre aux gens à être heureux. Il devrait y avoir des professeurs de bonheur. La classe, si elle commence de bonheur, finira très tard.
Longtemps, longtemps.